Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce débat. Ce débat des élections municipales, nous organisons aujourd'hui le 28e des 30 débats organisés par Midi Libre. Je suis le directeur de la rédaction, Olivier Biscaye, directeur de la rédaction de Midi Libre, et je suis vraiment ravi d'être à Mende pour cette séquence importante dans une campagne électorale. On est à 6 jours maintenant du premier tour des élections municipales, et au cours de cette rencontre, nous allons évidemment beaucoup parler de projets, d'ambitions pour la ville, d'ambitions pour le territoire. Je suis d'autant plus ravi que ce débat va être organisé, co-animé avec Ludovic Terrol, que vous connaissez bien, de 48 FM. On est ravis de ce partenariat avec Caroline Gaillard, autre personne que vous connaissez bien ici à Mende, responsable de l'agence de Mende, entre autres, agence également de Millau, puisqu'elle en est aussi la responsable, et l'ensemble de l'équipe de Mende qui est ici dans la salle, que nous vous présenterons ou représenterons tout à l'heure. J'ajoute que ce débat est enregistré. En ce moment, il sera diffusé ce soir à 19h sur les ondes de 48 FM. Je vais laisser Caroline et Ludovic officier pendant la première partie de cette rencontre, puisque ce moment va compter 3 temps. Un premier temps de débat, au cours duquel nous allons évoquer un certain nombre de thématiques. C'est ce que feront Caroline et Ludovic. Je prendrai ensuite le relais avec les questions de la salle, puisque nous avons souhaité, au cours de cette campagne citoyenne conduite depuis septembre dernier, faire en sorte que les citoyens puissent avoir la parole, et donc vous pourrez poser des questions directement aux deux candidats ici présents, Laurent Suau et Philippe Pouget. Et puis on aura un troisième temps de questions politiques que poseront Caroline Gaillard et Ludovic Terrol. Avant de démarrer, je voudrais vous passer une vidéo. Elle est très courte. Elle dure 2 minutes 30. On a posé nos caméras il y a quelques semaines ici au cœur de Mende, et on a tout simplement demandé aux habitants, si vous étiez maire, que feriez-vous ? Vidéo de Vincent Pereira.
Première mesure, je pense que je faciliterai peut-être déjà le parking dans Mende. Ça, c'est personnellement, pratiquement, je trouve que c'est très compliqué de se garer ici.
Plutôt tout ce qui est écologie. J'aime beaucoup l'écologie, c'est quelque chose d'important. Mais surtout, essayer de redynamiser le centre-ville de Mende.
Dynamiser le centre-ville.
Ouais. C'est-à-dire, vous feriez quoi ?
Ouvrir des commerces, faire des animations.
Supprimer les impôts. Je plaisante. Avoir plus de disponibilité au niveau des services publics, des transports en commun, etc. pour les gens pour les personnes âgées. La déchetterie, par exemple, la faire plus accessible quand les gens ont du mal à se débarrasser de leur encombrant, qu'ils sont âgés. On ne va pas, quand on a 75 ans ou 80 ans, dans un bus avec son matelas pour s'en débarrasser jusqu'à la déchetterie.
C'est de faire en sorte que cette population de Mende augmente dans l'avenir.
Ouais. Vous feriez comment ?
Écoutez, investir dans l'accueil de personnes âgées, éventuellement, pourquoi pas, qui viennent de l'extérieur. Ça serait une mesure, je pense, qui actuellement serait bénéfique pour Mende.
Redonner le pouvoir à ce centre-ville, en fait, parce qu'on voit qu'il se meurt, et c'est vraiment un gros problème pour nous, ça. C'est ce centre-ville, remettre le centre-ville au cœur du projet municipal, quoi.
J'irai m'acheter des paquets de bonbons.
Les circulations, les voitures. Mmh. En fait, qu'il y en ait moins en centre-ville et que ça soit une zone piétonne, et que ça soit gratuit pour les gens qui veulent s'y garer, quoi, parce que c'est impossible des fois de trouver une place sans payer hors de prix la place de stationnement.
Je laisserai déjà un peu plus la parole aux jeunes, peut-être. J'essaierai de mettre un peu plus en place des activités pour les jeunes. Enfin, jeune, je m'entends, c'est-à-dire pas plus ce qui est à la sortie du lycée et pour les étudiants, etc. Enfin, ouais, avec les étudiants, etc. Quoi. Mm-hmm. Qui rentrent entre 20 et 25 ans et qui ont pas beaucoup d'activités. C'est vrai qu'on a plus privilégié pendant un certain moment les collégiens, les jeunes, les petits demandes. Et c'est vrai que cette partie-là a été un peu délaissée. C'est peut-être ce qui pousse les gens, ces jeunes-là, à partir, à aller sur Montpellier, Clermont-Ferrand, etc.
J'aménagerai la ville pour que les vélos puissent circuler librement, se garer facilement, et que les enfants puissent profiter de la ville à pied et à vélo de façon quotidienne.
Mettre tous les parkings gratuits de façon à ce que les gens puissent accéder au commerce plus facilement. Voilà, des parkings gratuits.
On peut les applaudir, tous ces citoyens que vous connaissez forcément. Je vais vous inviter à vous asseoir, mesdames, messieurs. Et je vais passer le relais à Caroline et à Ludovic pour cette première partie. Je vais rendre le micro à Laurentio.
Merci beaucoup Olivier, bonjour à tout le monde. On va commencer ce débat déjà par présenter les candidats ici présents. Avec à ma gauche Laurentio de la liste Irrésistible Mende. Laurentio, donc vous êtes le maire sortant, vous avez 56 ans, maire de Mende depuis mai 2016, conseiller départemental de Mende 1 et président de la communauté de communes Cœur de Lozère. Vous avez également presque 56 ans, vous avez également un poste à 10% à la Fédération de pêche de la Lozère, vous êtes marié et vous avez deux enfants. Philippe Pouget de la liste Mende Avenir 2020, vous avez 53 ans, c'est bon pour l'âge, je ne vous ai pas vieilli. Vous êtes avocat au barreau de la Lozère et vous êtes également marié, vous avez aussi deux enfants. Nous allons commencer, messieurs, par évoquer dans cette première partie la situation financière de la ville de Mende. Pour cela, nous avons choisi avec Caroline de développer trois thèmes, l'endettement par habitant, la fiscalité et la masse salariale. Alors un petit topo de la ville de Mende. Le budget de la ville de Mende s'élève cette année à 12,5 millions d'euros et 5 millions d'euros en investissement. Nous sommes ici dans une ville-préfecture qui, avec cette particularité, engendre des charges de centralité obligatoires, une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du département. Donc il y aura des incidences, nous reviendrons dessus, il y aura des incidences à différents niveaux. Cette année, la population a atteint 12 967 personnes, la dette par habitant 950 euros et la fiscalité, on va se baser sur le foncier bâti, à un taux de 31,72%. Première question, messieurs, sur l'endettement par habitant. Laurentio, la dette par habitant a augmenté sous votre mandat pour atteindre 1040 euros par habitant en 2018. Elle baisse depuis deux ans. Cette année, elle est descendue à 950 euros. Alors, sur les chiffres 2018 que j'ai pu me procurer en Lozère, on va rester en Lozère, ça va de 700 euros à 2231 à Marvejols. Marvejols qui est une situation particulière, hein, on le sait, avec 1447 euros à Saint-Chély-d'Apcher, 1239 à La Canourgue, 1061 à Florac et donc 700 à Langogne. Vous annoncez vouloir atteindre 800 euros d'ici 2021, donc une double question pour vous, Monsieur Suau. Quelles orientations politiques ont été choisies afin de faire baisser cette dette et quelles orientations seront choisies pour atteindre 800 euros d'ici à 2021 ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Midi Libre d'avoir organisé cette séquence qui est effectivement importante pour peut-être contrecarrer certaines fausses informations qui circulent depuis pour moi trop longtemps. Sur la dette par habitant, j'ai amené un petit graphique là. Mende se situe à peu près au milieu. Vous avez en rouge les villes qui sont beaucoup plus endettées que nous. En bleu, la moyenne de la strate. Et en vert, les villes où tout va pas si mal. Donc Mende est dans la partie verte, avec une diminution sur les trois dernières années. C'est des villes qui sont comparables. Mende, c'est une ville-préfecture. Mende, elle a plus de charges de responsabilité, plus de charges de centralité. Mende, comme c'est une ville-préfecture, il y a beaucoup plus de services publics, il y a beaucoup plus de culture, il y a beaucoup plus de sport. Et donc, de ce point de vue-là, on a effectivement une charge qui est bien supérieure à d'autres collectivités, notamment en Lozère. Et donc, ce qui est comparable, quand on compare, il faut aller comparer avec d'autres villes en France, dans la même strate, 10-20 000 habitants, mais qui sont comme nous, préfectures. Et quand on compare avec ces villes-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas si mauvais que ça. Amende. Et donc, moi, je déplore les messages qui sont envoyés, à des fins politiques. C'est pas nouveau, Monsieur Pouget. C'est pas que de votre fait à vous. C'est depuis bien longtemps que ces messages-là sont envoyés, donc je ne peux que le regretter et le déplorer.
On parlait d'orientation politique. Quelles sont les orientations politiques que vous allez prendre pour justement atteindre les 800 euros d'ici à 2021, comme vous l'avez annoncé ?
La dette baisse puisqu'on emprunte plus depuis 2018 et donc mécaniquement chaque année sur le budget principal on rembourse 850 000 euros. En remboursant 850 000 euros de nouveau en 2020 puis en 2021, mécaniquement on sera aux 800 euros par habitant.
Philippe Houget, pour vous, il ne faut pas rapporter la dette par habitant, mais parler de richesse par habitant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Et également, seconde question, j'aimerais connaître pour vous le seuil de dette par habitant qui vous paraît raisonnable.
La question de l'endettement ne se résume pas à la dette par habitant. La situation financière de la commune touche d'autres domaines. Et le domaine le plus inquiétant qui nous concerne aujourd'hui, c'est les capacités de financement de la commune qui sont extrêmement réduites. Si la commune a fait appel à des lignes de crédit, ce n'est pas pour rien. C'est l'exemple d'un ménage mandois qui emprunterait pour payer ses impôts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la commune a besoin de faire appel à des lignes de crédit, elle n'a pas assez de trésorerie pour assurer les dépenses courantes. Ça, c'est inquiétant. Ce qui est inquiétant, et c'est la tendance, c'est que l'endettement a triplé en 10 ans. Il n'y avait pas plus de dépenses il y a 10 ans. Il n'y avait pas plus de besoins. C'est-à-dire que la commune demande, manifestement, s'est surendettée. Et pour répondre à votre question, l'endettement ne se résume pas à un taux brut. L'endettement doit être en effet rapporté à la richesse par habitant. Une ville riche qui a un budget de fonctionnement de 30-40 millions d'euros, elle peut, sans aucune difficulté, supporter un endettement même de 950 euros. La question, c'est que Mende a une situation où la richesse par habitant n'est pas assez importante pour rendre supportable cet endettement. Et donc, 950 euros pour Mende, contrairement à ce que dit M. Suot, nous sommes au-dessus de la strate. La strate est à 800-840 euros environ. Donc, nous sommes quand même dans une situation de surendettement. Et je terminerai en expliquant pourquoi la situation a pu s'améliorer. Monsieur Suot, maire sortant, vient de nous annoncer une baisse de 2,15% de pourcentage. Pour moi, ce n'est pas une tendance pérenne. Pour moi, c'est de l'électoralisme. La question, elle est plus simple. Pourquoi les résultats se sont améliorés en 2019 ? Tout simplement parce que la commune demande, et c'est totalement conjoncturel, a réussi à améliorer sa situation financière en transférant la compétence eau-assainissement à la communauté des communes. Ces budgets annexes eau-assainissement sont nécessairement à l'équilibre et excédentaires. Ces excédents sont alimentés par quoi ? Ils sont alimentés par les redevances que tous les Mandois ont payées. Nous avions, au 1er janvier 2019, quand cette compétence eau-assainissement a été transférée à la communauté des communes, nous avions 2 millions d'euros d'excédent, 1,5 million en investissement, 500 000 en investissement, 1,5 million en fonctionnement. Qu'a décidé la commune de Mende ? Elle a décidé de conserver peu ou prou 1,5 million euros qu'elle a reversés dans son budget principal. Si bien qu'elle s'est retrouvée avec une situation où le déficit d'investissement qui était à plus de 800 000 euros, il est devenu à zéro. La situation s'est améliorée, ça a permis de dégager des marges de manœuvre. Quand on regarde à l'avenir, cette situation ne se renouvellera pas parce que nous n'allons pas transférer la compétence eau tous les jours et toutes les années. Donc la situation de la commune de Mende s'est améliorée en 2019, mais c'est totalement conjoncturel. Et puis je crois qu'on ne peut pas non plus ignorer la question de la finance de la communauté des communes, parce que les deux sont quand même structurellement liés.
On en parlera, je crois, après la communauté de communes. Avant de répondre...
Laurent Suot, vous n'aviez pas l'air d'accord sur ces lignes de crédit et sur, ce transfert de compétences.
Sur trois éléments. On peut comparer des choses, mais il faut comparer les choses qui sont comparables. Moi, je veux bien qu'on compare Mende à une ville qui est à proche banlieue de Toulouse ou de Nîmes ou de Montpellier, mais elle ne supporte pas les mêmes charges. Donc je préfère qu'on compare des villes qui soient comparables. Quand je parle de ville-préfecture, je parle de Foix, je parle de Privas. C'est sur cette base-là qu'on doit comparer. On ne peut pas comparer avec des villes qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de milieu associatif, qui n'ont pas à défendre des politiques publiques fortes. Ici, à Mende, c'est la réalité. Donc, il faut qu'on soit bien conscient de ces éléments-là. Alors, qu'on fasse l'amalgame, ça me gêne. Premier point. Deuxième point, qu'on dise qu'on utilise la trésorerie pour payer les charges de fonctionnement. Toutes les collectivités aujourd'hui utilisent les lignes de trésorerie. Pourquoi ? Parce qu'on a les subventions qui rentrent de plus en plus tard. Nos financeurs nous payent avec beaucoup de retard, parfois un an et demi. Quand on est à l'Europe, c'est plutôt 2 ans. Donc il faut qu'on fasse effectivement, en termes de trésorerie, la balance. Je rappelle qu'il y a un principe réglementaire qui veut qu'en fin d'année, ces lignes de trésorerie doivent être à zéro. Donc si vous n'avez pas soldé une ligne de trésorerie à la fin de l'année, vous devez faire un emprunt. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais le département, que je connais bien, il y a Francis, Jean-Claude qui sont là, le département qui est une strate, on a même remboursé des emprunts. Je suis président de la commission de finances, je connais un peu le sujet. On utilise des lignes de trésorerie tout au long de l'année, justement pour faire face à ça. C'est un faux problème, ce que vous indiquez. Et le troisième élément, sur la compétence eau et assainissement, là, M. Pouget, vous ne connaissez pas le dossier non plus. Puisque le transfert de la trésorerie, il vient sur le budget de 2020. Alors ne me dites pas qu'on a utilisé de l'argent de la trésorerie, de l'eau et de l'assainissement en 2019 et en 2018. On a transféré au 1er janvier 2019. On a soldé le dossier en passant à la délégation de services publics au 1er janvier 2020. Et on solde aussi les éléments de trésorerie qui vont venir effectivement dans le compte administratif au 31 décembre 2019. Donc c'est de l'argent, effectivement, un one shot, ça on est bien d'accord. C'est de l'argent des Mandois, c'est les Mandois qui l'ont payé, donc c'est normal qu'il en reste une partie aux Mandois, 1,5 million, vous avez les bons chiffres, mais qu'on donne aussi à la communauté de communes les moyens de pouvoir assumer le service dans les années à venir, donc on a transféré le reste. C'est plutôt 1,4 million. Voilà, ça c'est la réalité. Mais ça vaut pour 2020, ça ne vaut pas pour les années passées.
C'est pas ce que vous avez dit lors du dernier débat, mais ce qui est important, et vous n'avez pas le contester, c'est que la capacité d'autofinancement de votre commune, elle est passée de plus d'un million d'euros en 2008, elle n'a pas arrêté de décroître pour arriver à 240 000 aujourd'hui. Donc les lignes de crédit, ce n'est pas une obligation. C'est une obligation quand on n'a plus d'argent en caisse. Si vous aviez un excédent de fonctionnement important comme il était il y a 10 ans, vous n'auriez pas eu besoin de ces...
C'est pas forcément lié. Je suis désolé, c'est pas forcément lié. C'est pas forcément lié. Vous pouvez avoir un exercice excédentaire, avoir des paiements de subventions qui arrivent avec beaucoup de retard et utiliser dans le courant de l'année des lignes de trésorerie. Je suis désolé.
Là, oui, mais si vous aviez de l'argent en caisse, vous n'auriez pas à faire appel autant de fois.
Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut faire une gestion comme vous, un bon père de famille, un conservateur, c'est-à-dire avoir un projet extrêmement limité pour la ville de Mende, ou au contraire, on veut que la ville de Mende soit une préfecture digne de son nom, avec de l'ambition et avec de l'investissement. C'est tout ce qui nous oppose, M. Pouget.
C'est votre vision des choses.
Non, c'est tout ce qui nous oppose. Vous, votre vision de la ville de Mende, c'est une ville dans laquelle on doit faire du conservatisme. C'est-à-dire que, grosso modo, ça se résume à faire beaucoup de choses sur le centre-ville. Vous ne regardez pas le reste de la ville. Vous ne regardez pas le reste de la ville. Moi, je veux regarder tous les villages. Je veux regarder tous les quartiers.
Vous avez l'habitude d'interrompre et
c'est investir. Il faut
vous
investir.
Sortez du sujet. C'est il faut, pas la question
non, non,
que
je ne pas du sujet.
On dans une seconde partie aux investissements et projets.
On est dans deux visions différentes de conservatisme et d'investissement. Et je rejoins en cela Alain Bertrand. D'ailleurs, j'en profite pour saluer sa mémoire, qui nous a quittés, bien sûr, bien trop tôt. Si la commune de Mende, entre 2008 et 2012, n'investit pas massivement, alors que la crise est là, en France, en Europe, dans le monde, c'est nos entreprises qui manquent de travail. Heureusement que la commune de Mende a investi à ce moment-là. Et la commune de Mende, Alain Bertrand, a investi dans le bon sens, parce qu'il a fait un certain nombre d'investissements structurants pour permettre le développement de la ville. Il a fait, par exemple, tout le réseau pluvial qui descend là-haut du Coste d'Auge, avec l'avenue du 8 mai, avec l'avenue Nelson Mandela, avec l'avenue Victor Hugo. Ça, ça nous permet de construire. Demain, ça nous a permis de faire tous les lotissements de la Bergerie. Demain, ça va nous permettre de faire la MSP, ça nous a permis de faire l'hôpital psychiatrique, ça nous a permis de faire des lotissements privés. C'est ça, investir pour l'avenir de Mende.
Philippe Pouget, vous ne m'avez pas répondu. Quel seuil de dette par habitant vous paraît raisonnable ?
L'idéal, ce serait déjà de revenir à la moyenne de la strate. On parlait tout à l'heure vers les 800 euros. Mais, contrairement à ce que dit M. Suot, il y a eu des investissements, le problème n'est pas là. Une commune qui n'investit pas, elle meurt. Et au passage, je suis surpris que, et c'est la première fois qu'on me traite de conservateur, bien au contraire, on me traite souvent de beaucoup plus progressiste que lui ne peut l'être. Non, la question, c'est pas ça. La question, c'est que nous avons, depuis que M. Suot a pris les rênes de cette commune, nous avons une augmentation croissante des dépenses.
Et c'est... Pas du tout.
Écoutez, Monsieur Suot, c'est encore pris effectivement la dernière fois. Puis... Non, hein, vous avez une augmentation. Mais c'est facile de dire non, 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 parce que vous avez un aplomb pour affirmer
les
contre-vérités.
J'ai les chiffres. Là.
Les dépenses de fonctionnement n'ont pas arrêté d'augmenter depuis déjà 10 ans. Donc c'est bien beau d'investir, mais si parallèlement vous ne travaillez pas sur des économies raisonnables sur les dépenses, vous vous retrouvez avec une situation avec une capacité d'autofinancement qui est extrêmement faible. Et je reviens sur ce point essentiel, sans capacité d'autofinancement, vous n'avez pas la possibilité de dégager des marges de manœuvre pour investir. Pour investir, vous vous endettez, pour vous endetter, vous créez une situation qui, à ce jour, fait que la commune de Mende n'a plus la possibilité de s'autofinancer, elle a recours à une ligne de crédit. La réalité, elle est là. Alors maintenant, vous avez fait des investissements, oui, vous avez fait Georges Frêche. La question, elle n'est pas là. Si c'est construire pour construire, n'importe qui peut le faire. La question, c'est quand on construit un projet, on examine ce projet, on regarde son utilité, on regarde ensuite quels seront ses coûts de fonctionnement, quels seront ses retombées sur un plan économique, et ensuite on construit. Si c'est construire pour construire, c'est pas construire, c'est dépenser.
On va parler des projets structurants
juste
après.
Permettez-moi, sur les dépenses.
Et après, on change le thème. Allez-y.
Derrière, on sent bien qu'il y a la question concernant l'espace événement qui, soi-disant, aurait ruiné la ville. Alors, je vais vous donner des chiffres encore. Désolé, hein, mais... Et vous pouvez tous les vérifier, hein, puisque c'est des chiffres publics. Vous pouvez tous les vérifier. Sur les charges à caractère général, dont tout ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de l'espace événement, on a 1% de hausse par an en 5 ans, depuis qu'il est ouvert, depuis 2015.
C'est pas la question.
Et si, c'est la question.
La question, c'est quel est le surcoût de fonctionnement de ce bâtiment
La preuve, c'est que globalement, on a continué à faire toutes nos politiques publiques, même quelques-unes de plus, puisque l'État, entre-temps, nous a transféré quelques bricolettes, comme les cartes d'identité, les PAX, la gestion des grands événements, enfin, etc. Et donc, on a 1% d'augmentation des dépenses de charges à caractère général. Le 0,11, pour ceux à qui ça parle. 1% par an. C'est même pas l'inflation. Et sur la masse salariale, parce que je sais que vous allez venir sur le sujet aussi, donc en 5 ans, on a 0,50% d'augmentation de la masse salariale par an. C'est même pas le GVT. Le GVT, pour ceux qui connaissent, c'est le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire des employés de la fonction publique, ils évoluent dans leur carrière, et donc tous les 2 ou 3 ans, ou quand ils passent un concours, hop, ils prennent un échelon. C'est même pas le GVT. Donc ne me dites pas que des outils comme l'espace événement, alors qu'on a maintenu toutes nos politiques publiques, que ces outils-là ont ruiné la ville, parce que c'est les termes que vous utilisez.
Oui, est-ce qu'on peut savoir, alors, puisqu'on vous avez devancé une de nos questions, puisqu'on comptait bien venir sur l'espace événement, à quoi il sert ? Est-ce que vous avez le chiffre des manifestations et quelles manifestations cette année, par exemple, Monsieur Sio ?
Alors je peux même répondre à sa place, puisqu'il a écrit ces 63 manifestations, dont une grande majorité de mariages. Ce n'était pas l'objectif initial assigné à ce bâtiment.
Je n'ai jamais dit une grande majorité de mariages. Ça fait partie des manifestations.
Vous nous direz le chiffre exact.
Ça, je ne le sais pas.
Quoi qu'il en soit, ce n'était pas l'objectif assigné initialement à ce bâtiment. Je rappelle que ce bâtiment était destiné à servir de salle de congrès, que l'objet était de faire de Mende une ville de congrès, mais qu'il aurait peut-être fallu se poser la question préalablement, est-ce que Mende a des capacités hôtelières suffisantes ? Est-ce que Mende est suffisamment, en termes de desserte autoroutière, aérienne ou ferroviaire desservie, et au final, est-ce qu'il y a un marché ? Donc on nous a vendu un investissement avec un objet assigné. On se retrouve avec un centre qui est bien fait, qui est construit, tout ce que vous voulez, mais qui sert à quoi ? Qui ne sert pas ? Non, mais il est construit, il est là. Mais il ne sert pas à l'objectif initial. Moi, je n'ai pas trouvé que ce centre était très, très utilisé pour des congrès. Oui, il y a eu la vache brune. Oui, il y a quelques congrès, il y a l'artisanat nature, il y en a. Mais globalement, il est vide. Les 3/4 du temps, même plus, puisque 63 manifestations, ça fait effectivement pas beaucoup. Et au final, c'est aussi, et peut-être surtout, pour des mariages, ce que n'est pas, il y a d'autres fêtes, d'autres salles sur Mende qui pouvaient très bien servir pour les mariages ou autres.
Alors, il ne faut pas laisser croire que l'espace événement, il ne fait que des mariages. Ce n'est pas vrai.
Il a peut-être fait
5 ou 6 mariages. Mais il fait le taf, c'est le...
Le salon de l'emploi travail. Et de la formation.
Oui, formation,
qui est fait par, formation.
Voilà, qui est fait par la région. Il fait, comme vous l'avez dit, artisan nature. L'année dernière, il a accueilli le congrès de la FNB, donc de la race...
La Fédération Nationale des Viandes.
Voilà. Donc il y a tout un tas de manifestations. Si on n'a pas cet outil, on ne peut pas les faire. On ne les aurait pas eu. La race brune, vous l'avez dit, si on n'a pas cet outil, on ne le fait pas. Après, il faut bien voir qu'on est dans un territoire rural, très rural, qu'il y a des problématiques d'enclavement, ça on en a bien conscience, et je partage complètement que peut-être il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits sur le fait d'être attractif et d'aller chercher des manifestations ailleurs. Mais par rapport à l'hôtellerie, si on attend que ça soit le privé qui bouge pour faire des investissements sur un territoire comme le nôtre, et que ça ne soit pas la puissance publique, parce qu'il a quand même été superbement financé, cet espace événement. Ça, personne, je crois, que le conteste, l'investissement. En termes de fonctionnement, j'ai apporté les chiffres, les preuves, il ne coûte pas guère plus cher, il ne coûte pas énormément de plus.
Combien par an il coûte? Je ne parle pas des augmentations annuelles, 1% par an, ce n'est pas le problème. Combien il coûte en termes de fonctionnement?
On devrait avoir des augmentations massives de charges courantes. Il nous a même permis, si vous me permettez, de faire des économies sur l'électricité, puisqu'avant on avait différents contrats, on n'a plus qu'un seul contrat sur toute la place du Forail. Il coûte, bien sûr qu'il coûte. Voilà. Il y a bien des charges de fonctionnement, il existe. Mais cette tilpide avant coûtait aussi.
Sûrement moins que l'espace.
À moindre échelle, mais il n'avait pas la même utilité. Alors, moi, je suis assez d'accord sur le fait que peut-être il faut essayer d'aller chercher plus de...
La question, est-ce qu'il est assez bien commercialisé, cet espace événement?
Peut-être. Il y a des efforts à faire de ce point de vue-là, puisque 63 manifestations, on est quand même d'année en année, depuis 2015, monté en puissance. On a dû attaquer par 25-30 manifestations pour arriver quasiment... L'année dernière, on devait être autour de 52-53. Et donc, il y a peut-être des choses à faire de ce point de vue-là. Mais il y a toujours à faire. Et je reviens sur la question de l'attractivité. Si on ne crée pas, dans les territoires ruraux, des outils qui nous permettent effectivement d'accueillir dans de bonnes conditions, ce n'est pas les hôteliers qui vont développer leur hôtellerie. Je redis aussi que quand il y a des manifestations d'importance, il n'y en a pas assez, j'aimerais qu'il y en ait plus moi aussi, mais quand il y a des manifestations d'importance sur Mende, bien entendu, l'offre d'hébergement sur Mende est complète, mais ça rayonne autour. Allez voir à Châteauneuf, moi je connais bien Châteauneuf, allez voir à Marvejol, allez voir l'hôtellerie autour, elle rayonne. Et ils le disent.
On va peut-être passer sur la fiscalité. Fiscalité, donc, sachant que la taxe d'habitation est vouée à disparaître, nous allons parler de la taxe foncière qui atteint en 2020 31,72%. Il y a toujours la taxe d'habitation. Pour reprendre les chiffres que vous donnez, Laurentio, taxe d'habitation plus taxe foncière, on se situe à 578 euros par habitant. Une petite explication sur cette fiscalité rapidement. C'est le produit d'une base fixée par l'État et donc d'un taux fixé par la commune. En Lozère, vous le répétez, Laurentio, il y a des bases qui sont faibles, donc toujours pareil, si on veut le comparer à d'autres villes, il faut trouver des bases identiques et des villes de même envergure. Voilà, c'est pour donner des exemples, si jamais vous en donnez après. Philippe Houget, vous vous engagez à ne pas augmenter les taxes communales sur l'ensemble de la durée de votre mandat?
Oui, c'est un engagement que nous prenons.
Vous êtes courageux.
Ah ben oui, justement, c'est peut-être du courage qu'il a manqué à Mende jusqu'à maintenant. On a dépensé, mais sans effectivement prendre les bonnes décisions. Oui, nous prenons cet engagement. Et je sais quel sera l'argument que va immédiatement me retourner M. Ciot, puisque c'est le même qu'il m'a adressé il y a 15 jours. Il va me dire si les dotations d'État baissent, eh bien, comme je lui ai répondu, nous adapterons la voilure. Si nous avons des dotations d'État qui baissent, nous chercherons des économies pour compenser cette baisse de dotation.
Et vous supprimerez des politiques publiques.
Pourquoi ne pas les baisser? Vous engagez à les baisser?
Parce qu'il faut être raisonnable et surtout pas électoraliste. Je ne suis pas celui qui annoncerait la veille des élections, je baisse les taux de 2,15% sur la taxe foncière. Parce que ce stade-là, je ne connais pas dans le détail la situation financière de la commune de Mende. Je connais les comptes administratifs, j'ai fait quelques analyses. Mais ce que je veux savoir, et la première mesure, ou une des premières mesures que nous prendrons quand nous serons aux affaires, si les Mendois nous les confie, ça sera d'organiser un audit de gestion et des finances de la commune de Mende et nous inviterons la communauté des communes à faire de même. Parce que c'est sur cette base-là, sur la base des résultats que nous aurons, que nous examinons la situation, que prenons les décisions. Je ne veux pas être populiste ni électoraliste. Mon objectif, parce que c'est déjà suffisamment haut, c'est de maintenir dans un premier temps les taux. Quand nous aurons rétabli la situation financière d'ici X années, oui, nous envisagerons une baisse sérieuse. Mais une baisse qui devra s'accompagner parallèlement d'économies rationnelles sur le fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre et pour permettre, toujours pareil, d'investir sans avoir recours aux lignes de crédit, mais avec les excédents de fonctionnement que nous dégagerons.
Laurentio, vous vous engagez sur un objectif à 2022 de baisser la taxe foncière sous les 30%. Donc pourquoi 2022 déjà?
Alors je disais à M. Pouget qu'il était courageux parce que En termes de fiscalité publique, de dotation d'État, on a vu que les 10 dernières années ont été quand même catastrophiques pour l'ensemble des territoires, pas que Mende. Mais à Mende particulièrement, on a perdu un tiers de la DGF. Donc on avait 3 millions, aujourd'hui on a à peu près 2 millions d'euros. Et on a contribué à un fonds de péréquation intercommunale et communale, donc le fameux PIC, pour ceux qui en ont entendu parler, à hauteur au plus haut à 600 000 euros. Donc ça fait beaucoup d'argent qui nous a échappé au territoire, et donc il a bien fallu le compenser. Et je salue encore une fois Alain Bertrand, qui a été courageux, donc, et qui a augmenté la fiscalité, la taxe foncière sur la propriété bâtie. Et maintenant, moi, j'ai des marges de manœuvre pour les raisons suivantes. La première, c'est que le gouvernement a annoncé le maintien des dotations pour la durée du mandat. Donc j'ai de la visibilité jusqu'à 2022. Et c'est là où je vous estime que vous êtes courageux, parce que après 2022, vous n'avez aucune visibilité. Et donc là, c'est un peu de la roulette russe que vous voulez proposer au Mandois. Le deuxième élément, c'est qu'on a eu beaucoup de constructions sur Mende, plusieurs centaines de logements. Ces logements, ils procurent de l'impôt qui rentre dans la caisse de la commune. Troisièmement, et c'est une chance, après une baisse de la population entre 2008 et 2015, et on sait pourquoi, parce que les politiques publiques, entre autres, Mende, c'est une ville fonctionnaire, nous ont quand même malmenés et on nous a supprimé quelques centaines de fonctionnaires, donc on a perdu la population, et depuis, on regagne de la population. Regagner de la population, c'est avoir plus de sous de dotation de l'État. Donc sur ces trois bases-là, raisonnablement, j'ai engagé, et pas que cette année, monsieur Pouget, l'année dernière, j'ai baissé d'un point la fiscalité, 3%, cette année, je la baisse de 2,15%, et je veux aller, parce que je pense que le seuil est symbolique, sous le taux des 30%. Alors on me compare souvent ce taux à d'autres villes, mais il faut comparer la fiscalité locale globale, c'est-à-dire qu'il faut prendre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur la propriété bâtie pour avoir un socle commun et des bases. Ludovic Terrol l'a dit. Ici, en Lozère, c'est pas qu'à Mende, en Lozère, historiquement, depuis la création dans les années 70 de cette fiscalité locale, on a des bases qui sont faibles. Donc, mécaniquement, pour rentrer le même impôt, il faut avoir un taux qui est plus élevé, puisque c'est une multiplication. Et dans le même temps, on a aussi la taxe d'habitation, qui, elle, est historiquement faible. La base et le taux. Et ça, c'est vrai aussi pour la quasi-totalité de l'ensemble de la Lozère. Et il faut faire un mix de l'ensemble, c'est-à-dire prendre la taxe d'habitation et la taxe foncière pour avoir l'impôt local. C'était des politiques sur la taxe d'habitation qui étaient voulues par Jean-Jacques Delmas, qui ont été poursuivies par Alain Bertrand, et que je poursuis moi aujourd'hui, d'avoir une taxe d'habitation faible. Bon, elle va disparaître en 2023, je crois que c'est très bien pour tout le monde. C'est cet ensemble-là qu'il faut tenir compte. Quand on me parle toujours, quand on m'a opposé pendant les 4 années que je viens de passer à la mairie, au conseil municipal, quand on m'a opposé que le taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie, c'est en quelque part mentir aux Mendois. C'est pas dire toute la vérité. Et il faut dire toute la vérité. La vérité, c'est la taxe d'habitation, le taux, les bases. C'est la taxe foncière, le taux, les bases. Voilà. On ne peut pas opposer qu'une seule entrée qui intéresse pour des raisons qu'on peut comprendre.
Oui, mais ce qui compte surtout, c'est ce qu'il sort de la poche des Mendois. Quand on ajoute les budgets annexes, quand on ajoute le budget principal, quand on ajoute ensuite la Comcom, c'est largement plus de 2 000 euros. Moi, c'est très, très important pour quelqu'un qui gagne un SMIC et qui veut vivre correctement sur Mende. Donc c'est quand même, de votre part, assez surprenant de vous glorifier d'un taux qui est, quoi qu'on dise, extrêmement élevé. Même si vous avez l'argument de la centralité, même si vous avez des dépenses de fonctionnement, vous ne pouvez pas faire l'économie de faire justement des économies pour ramener ce taux à ce qui serait plus acceptable pour les Mendois.
C'est ce que je fais, puisque je baisse le taux de la taxe foncière, et après, je ne peux pas vous autoriser. Ou alors, si vous dites ça devant du public, que c'est entendu, c'est que vous avez une méconnaissance totale des budgets des collectivités.
Mais les vôtres, je ne les connais pas trop, parce qu'on a eu du mal à les avoir.
Non, mais enfin, il vous faudra quand même peaufiner un peu votre discours, parce que quand vous dites que la fiscalité directe, la fiscalité locale, elle va au budget principal, tous les budgets annexes, normalement, sont autofinancés. Sur les budgets annexes, il n'y a pas de fiscalité qui va. C'est des opérations normalement qui sont faites pour le compte d'autrui et qui s'autofinancent parce qu'il y a soit un loyer qui rentre et qui vient payer l'opération. Il y a de la dette sur
ces... Il y a de l'endettement.
Oui, il y a de l'endettement, mais il y a de l'endettement
qui est sécurisé. Donc ça se répercute sur tous les impôts.
Non, pas du tout.
Mais
Non, pas du tout.
Si vous avez de l'endettement, il faut bien qu'effectivement vous puissiez le rembourser.
Non.
Donc il faut bien que vous trouviez la source.
Là, vous mélangez deux choses qui sont complètement différentes. Je reprends. Le budget principal, donc c'est tout ce qui concerne les politiques publiques. OK ? Après, vous avez un budget annexe, par exemple, à la ville, qui est celui de la cité administrative, pour lequel... J'en profite de qu'il y ait mon doigt là-devant. On avait contractualisé avec l'État avant 2012. On a eu 0 € d'aide de l'État. Parce qu'avant 2012, il y avait un sénateur qui n'était pas mon doigt. Après 2012, ça a changé. Si vous voulez, je vous en dirai un mot tout à l'heure. On a financé la cité administrative sur un budget annexe uniquement par de l'emprunt. Cet emprunt, jusqu'en 2054, le dernier, il est couvert par des loyers qui nous sont payés par l'État, par le département, puisque le département et l'État sont locataires. Mais ça n'a rien à voir, et là je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux quand vous dites ça.
On va changer de sujet, parce que là...
Le temps passe.
Le temps passe, et on va passer assez rapidement sur celui-là, sur la masse salariale. On va essayer d'avoir des réponses courtes. Philippe Pouget, sur le budget de fonctionnement, on parlera des indemnités des élus après. Vous souhaitez baisser les dépenses de fonctionnement. Donc, très simplement, comment et quel poste ? Par quel poste ?
Ah ben, les choses seront claires. Tout euro dépensé devrait être un euro utile. Les premiers postes que nous allons vérifier de près, ce sont de toute façon les services extérieurs. Dépenses, cérémonies, bouteilles de champagne, etc. Nous travaillerons également, et vous l'avez dit...
N'exagérez pas quand même non plus.
Ah non, mais nous examinerons tout, parce que
Ça me fait penser à l'opposition il y a quelques années en arrière, festoyade.
Oui, non, mais écoutez, vous me laisserez le plaisir de vérifier vos comptes une fois que nous serons à votre place. C'est pas maintenant que je vais croire à ce que vous allez me dire. Donc nous allons travailler sur tous les postes. On parlait des rémunérations des élus, oui. Les conseillers municipaux avec des délégations plus ou moins.
On y viendra tout à l'heure, oui, si vous voulez.
Nous allons également travailler sur les véhicules de fonction ou les véhicules de pseudo-service. Nous allons essayer de rationaliser toutes ces dépenses. Oui, nous allons travailler, je le dis et je le répète, c'est de l'argent public. L'argent public, il doit être, avant d'être dépensé, il doit être assuré qu'il servira à quelque chose. Et ça, nous allons le faire. Donc, je prends un exemple qui, d'ailleurs, qui a été cité dans vos colonnes il y a déjà quelques mois, la ville de Rodez, qui est plus importante, celle de Mende. D'accord. Le maire de Rodez a baissé les frais de fonctionnement de sa commune de 25% en 2 mandats. Je ne vois pas pourquoi, sauf à déclarer de manière incantatoire, on ne peut rien faire, je ne vois pas pourquoi une ville comme Rodez arriverait à chasser tout argent inutilement dépensé et pourquoi une ville comme Mende ne le ferait pas. Donc je vous donnerai des précisions. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas le détail. Oui, non, mais vous les aurez quand vous serez dans l'opposition.
C'est facile d'annoncer des chiffres comme ça, sans apporter aucun élément. C'est facile de dire à des mandois qu'il y a de la gabegie, qu'on ne dépense pas bien. Alors que moi, j'apporte...
Oui, non, mais je pense qu'il y a des choix. Faites venir le Tour de France à X dizaines de milliers d'euros, on peut se poser la question si, à un moment donné, par rapport à la situation financière, c'est un choix qui est opportun. Quand on parle
de
voiture de fonction...
Si vous voulez qu'on en parle...
Mais vous parlez de retombées directes. Mais nous aurons les résultats de cet audit de gestion et de finances à commune de Mende, une des pistes de réflexion, ça sera celle-ci, rechercher des pistes et des moyens d'économie raisonnables pour que nous arrivions à rétablir une situation financière et dégager les excédents.
Juste sur le Tour de France, soit on a de l'ambition pour la ville ou soit on n'a pas d'ambition. Ça, c'est clair. Premier point. Deuxième point, c'est une opération qui nous rapporte à la commune. Alors, s'il vous plaît.
On va rester sur la masse salariale, Laurentio. Du coup, vous avez mis en place une réorganisation des services, vous, pour baisser la masse salariale.
Notamment une mutualisation avec la communauté de communes.
Oui, c'était un acte, je crois, que je qualifie de courageux, parce que c'était une opération qui était complexe, qui pouvait l'être, qui finalement s'est très 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 bien passée. Et je salue ici l'ensemble de l'encadrement des 3 collectivités, donc puisque j'ai mutualisé communes, communauté de communes, CIS, Centre intercommunal d'action sociale. Il y a à peu près 150 agents qui sont mutualisés avec des services supports, services ressources humaines, finances informatiques, et puis des services techniques qui sont mutualisés. Tout ça parce qu'effectivement, il a fallu qu'on fasse des efforts sur la masse salariale. Je reviens à ce que je disais sur les augmentations de chiffres. Et donc, en même temps, rendre toujours le même service aux Mandois et à la communauté de communes. Donc, ça nous a obligés, effectivement, à être intelligents, à essayer de réfléchir ensemble, à essayer de travailler ensemble. Ça nous a permis aussi, et c'est pas anodin, je crois, d'utiliser au mieux l'ensemble des cerveaux qu'on peut avoir dans chacune des collectivités au profit des trois collectivités. Donc, je crois que c'était une opération qui est réussie. Ça aurait pu être une opération très compliquée si les syndicats, je les remercie, parce qu'ils ont plutôt été favorables pour que cette opération se fasse. C'est pas qu'avant, ils travaillaient pas ensemble, mais aujourd'hui, ils travaillent plus ensemble et mieux au service de l'ensemble des contribuables.
On va changer de thématique, Caroline.
Oui, on va peut-être essayer aussi de vous demander des réponses un tout petit peu plus courtes parce que le temps passe. On va venir sur les investissements et les projets. Alors, on sait que sur cette thématique, deux sujets vous divisent complètement, le musée du Gévaudan et la zone commerciale du Causse d'Auge. On va démarrer par le musée. Le chantier vient tout juste d'être lancé pour un coût de travaux estimatif de 10 millions d'euros. Financé à 77%, la part communale donc restante étant de 2,3 millions. Je suis désolée, hein, beaucoup de chiffres, mais c'est un peu nécessaire. Mais c'est surtout le fonctionnement et son financement qui font débat. Estimé entre 1 million d'euros sur la base haute et 650 000 euros, il devrait recevoir le soutien de la région pour 150 000 à 180 000 euros. C'est un engagement de Carole Delga. De la DRAC sur le programme des expos de 50 000 euros. Le département ne s'est pas engagé pour l'instant sur les chiffres. Qu'en sera-t-il et comment le financer ? Bien évidemment, sans jouer sur la variable d'ajustement des expos temporaires qui sont l'atout d'attractivité d'un musée.
La question est pour moi ?
Bah, allez, et puis on passera après le micro à M. Pouget.
Oui, je pense que M. Biscay tient le chronomètre.
Je vous ai pas vu vendredi soir, d'ailleurs, à la présentation de la Société des Lettres. J'ai été surpris que vous y soyez pas. Je pensais qu'on aurait pu échanger, parce que vous êtes contre un projet, mais quand il y a deux associations qui organisent une séance de présentation, vous venez même pas défendre vos convictions. Oui, c'est curieux.
Vous pouvez la présenter comme une séance de présentation. C'était plus un problème de réponse à un article dans la Lozère Nouvelle que j'avais.
Allez, alors on va passer à notre question pour.
Non, mais je vais prendre la parole puisque Monsieur Suot attend avec impatience. Je vais lui dire. Le musée, pour le coup, c'est pas moi qui joue avec la roulette russe, Monsieur Suot. Nous ne sommes pas, a priori, favorables à ce musée, mais de manière totalement objective. Nous ne sommes pas favorables, mais simplement, nous sommes pragmatiques. Nous sommes pragmatiques, ouverts. Nous devons nous poser la question. Et quand nous arriverons aux affaires, nous nous poserons ces trois questions. La première, est-ce que ce musée présente un intérêt général ? Un intérêt général pour la population ? Est-ce que les collections qui seront présentées constitueront vraiment un avantage et un outil d'attractivité. Deuxième question, est-ce que ce musée va nous ramener de l'activité, attirer des visiteurs ? Troisième question, est-ce que ce musée financièrement, je ne parle pas de l'investissement, je parle du fonctionnement, est-ce que ce musée est de nature à mettre en danger la finance de la ville ? C'est ça la question principale. On ne crée pas un projet, un musée, en se disant « Tiens, je me lève ce matin, je fais un musée, puis on verra bien si je le finance. » Le problème, il n'est pas là. L'investissement, il est financé. La question, c'est ça. Sur ces trois questions, au regard de l'examen que nous ferons, mais nous prendrons des décisions et nous trancherons. Première hypothèse, ce musée présente des avantages indéniables. Il est financé. Nous avons toutes les assurances que le frais de fonctionnement seront assurés. Ce musée se fera. Je ne suis pas du tout dogmatique. Je n'ai pas une a priori favorable ou défavorable pour le principe. Non, mais je l'ai dit, nous ne sommes pas favorables sur le principe. Maintenant, parce que nous avons justement l'expérience de Georges Frêche. Et vous n'avez peut-être pas aussi, autant que nous, rencontré tous les mandats pendant cette campagne. Je peux vous garantir que l'espace Georges Frêche, certains mandats vont à travers la gorge.
Pas pendant la campagne.
Vous prendrez la parole quand j'aurai terminé, vous me l'avez laissé pour me la reprendre. C'est pas très très aimable, monsieur Suot. Non. Deuxième solution, deuxième hypothèse. Ce musée, manifestement, nous amène dans le mur, droit dans le mur.
Je parlais tout à l'heure qu'un excédent de fonctionnement, la commune de Mende avait en 2019 240 000 euros. C'est-à-dire que pour assurer du fonctionnement, il lui faut trouver, selon, comme vous l'indiquez, soit 760 jusqu'à 760 000 euros, ou au moins il faut en trouver 300 ou 400 000 euros de plus. Bon, bah écoutez, sauf à déclarer de manière incantatoire « j'ai des finances, moi j'ai des financements », je n'ai rien. Madame Delga s'est engagée. D'accord. Mais qui ici peut dire qu'aux prochaines élections régionales, et le musée se terminera après, qui peut dire que la majorité nouvelle ou la majorité reconduite du conseil régional maintiendra son financement? Je n'en sais rien. Et puis, la région, elle ne va pas non plus s'engager sur 10 ans, elle s'engagera annuellement. Le département, je dis la même chose. Qui nous dit que le département, lors du renouvellement, là aussi s'engagera? Et même si les deux s'engagent, la différence, elle est où? Où c'est qu'on la trouve, cette différence? Entre ce qui reste dans les caisses quand on a payé les charges avec les recettes de fonctionnement de 240 000 euros, où c'est qu'on va trouver le reste? Il en manquera toujours. Alors, certes, M. Suau va dire, mais on dépense déjà 130 000 euros puisque nous avons 3 employés, etc. Mais il en manque encore. On nous dit 110 000. Non, moi, j'ai fait le calcul, il en manque encore au moins 100 000. Et puis, là aussi, mais j'examinerai les choses quand nous aurons de la part des Mendois ce mandat de représentation à la mairie. Je verrai, là aussi, si le chiffre 600 000 euros ou 650 qui est avancé d'un côté, 700 000, 1 million. On sait très bien que quand on bâtit un projet, les chiffres sont souvent plus faibles que la réalité. Ça vaut aussi pour l'investissement. Donc nous verrons réellement si sérieusement les chiffres ont été calculés, si les frais de fonctionnement ont été calculés, et si nous avons un intérêt à l'opération, mais si c'est quand même dangereux, parce que ce musée est quand même très très important. Il est presque disproportionné. Ben, à ce moment-là, nous reconfigurons le musée, pour une partie, et pour autre partie, nous substituerons, justement, lesquels moyens? Ça sera, là aussi, une recherche de financement. Nous substituerons une partie de cette construction à du logement, à une résidence seigneuriale. Nous avons des idées là-dessus, parce que les entreprises, et je suis d'accord pour le coup avec ce que vous dira sûrement M. Suau, les entreprises ont besoin de travailler. Mais je sais d'ores et déjà, et c'est pour vous montrer que lorsque un marché public se réalise, vous avez des suggestions techniques qui viennent très très rapidement apparaître et parfois compromettre l'économie du projet lui-même. J'ai déjà appris que vous avez sur un plan technique une difficulté, puisque dans une des maisons, il existe une cuve et que personne pour l'instant sait réellement comment l'enlever. Donc ça aussi, c'est des surcoûts. Je ne suis pas persuadé que vous l'avez prévu. Donc raison gardée, nous examinerons tout ça quand nous aurons tous les éléments du dossier, mais dans l'absolu, les trois hypothèses que j'ai présentées sont toutes les trois plausibles et nous verrons le moment venu ce que nous déciderons.
Monsieur Suau, comment vous financez ce fonctionnement?
Alors moi, je trouve que M. Pouget n'est pas cohérent. Dans un temps, il nous dit « Moi, je suis capable de maintenir les taux actuels de la fiscalité sur Mende jusqu'à la fin de mon mandat, sans savoir de quoi demain sera fait. » Nous, on le sait jusqu'à 2022. Et d'un autre côté, il me reproche à moi de dire que les engagements que je pourrais prendre avec la région ou avec le département, ils ne seront pas durables. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Et après, je vous trouve quand même, je vais utiliser un mot que j'aime pas bien, mais ça fait rien, un peu gonflé, parce que vous dites que, ce que vous venez de dire un peu là, il y a trois hypothèses. La première, tout est bien, le musée est bien conçu, bien placé, totalement financé, alors il se réalisera. Deuxième hypothèse, ce musée est irréalisable. Alors nous substituerons à ce projet une autre réalisation pour permettre aux entreprises de continuer à travailler. Mais vous allez vous priver de 7,7 millions de financement public. Si vous voulez faire des appartements, vous n'aurez pas un copec d'argent public. Donc ça, il faut que vous le sachiez aussi. Alors peut-être je vous apprends,
ah non,
peut-être je vous apprends des choses.
Vous avez bien eu là.
Non.
Pour le musée.
Pourquoi oui, pour le musée. Mais pour faire des appartements, vous n'aurez pas d'argent public pour faire des appartements.
C'est vous-même qui vendez dans votre projet des opérations OPA entre autres, donc des financements quand on veut les trouver.
Non, pour OPH, alors là aussi, peut-être je vais vous apprendre quelque chose, mais OPH, c'est une intervention financière publique de l'ANA et d'autres partenaires, dont la communauté de communes Cœur de Lozère, qui va financer des opérations, mais des opérations privées. Je redis que si vous voulez faire des appartements, comme une demande, à la place de l'espace événement...
Oui, ben ça vous a...
À la place du musée, vous n'aurez aucun argent public. J'en profite d'ailleurs, puisque vous rigolez, et que ça fait rire la salle, sur l'espace événement, l'autre jour, j'ai bien noté d'ailleurs dans notre dernier débat, que vous ne parliez à l'origine de tout remodeler dans l'espace événement pour en faire peut-être J'avais entendu un supermarché, puis maintenant vous êtes plus qu'au rez-de-chaussée.
Ah non, non, on a toujours été au rez-de-chaussée.
Je reviens au sujet qui nous intéresse, sur le musée. Le musée, si j'ai bien compris, la partie investissement, ça ne vous pose plus de problème, puisqu'on a quand même été particulièrement performant. Je redis aussi que l'Europe finance, la région finance, l'État finance, le département finance, c'est que tout le monde y croit. Vous pensez qu'il y aurait des collectivités de strates supérieures, que l'État viendrait financer des opérations d'investissement si elle savait qu'elles étaient vouées à l'échec et perdues d'avance? Franchement, vous pensez que les gens, ils sont à Paris, à Toulouse, à Bruxelles ou au conseil départemental, ils sont aussi stupides que ça? Franchement, vous pensez ça? Et sur le fonctionnement, je sors, juste avant de venir là, je sors d'une réunion, puisque l'État nous a demandé, on a fait avec l'État, on est en train de faire une étude sur le coût de fonctionnement, puisque c'est un sujet, effectivement. L'investissement, il est bien financé, il va en rester peu ou prou, c'est même un peu moins de 2,3 millions, hein, ça sera plutôt 2 millions d'euros à la charge des mandats. Donc sur 3 exercices, ça fait peu ou prou 600 ou 700 000 euros par an à financer, sachant qu'on a un budget d'investissement moyen d'une année sur l'autre qui est autour de 5-6 millions d'euros. Donc c'est largement supportable sur le budget de la commune, la part qui reste pour les mandats. Sur le fonctionnement, c'est un vrai sujet, effectivement, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, on a 130-150 000 euros de coûts, puisqu'on a fait les réserves du musée. Allez, Raymond Fage, j'ai une petite dizaine d'années, qu'on a 3 employés qui travaillent pour ce musée. Et demain, la construction du musée du Gévaudan donc, va entraîner effectivement des charges. J'étais à 13h30 en réunion avec ce bureau d'études, qui est financé par l'État en grande partie aussi, et qui nous dit que notre coût de fonctionnement, que moi j'avais estimé, puisque on n'est pas tombé dans la dernière quand même, on essaye d'y travailler depuis un certain temps, à savoir ce que ça va coûter en fonctionnement. Il faut bien que la ville soit en capacité de supporter ce fonctionnement. Moi j'estimais que c'était autour de 550-600 000 euros. Là, l'étude, elle nous dit que ça sera plutôt autour de 500. Alors, c'est plutôt une bonne surprise. C'est plutôt une bonne surprise. Moi, je vais rester sur mon chiffre. Plutôt 600 000 euros. Donc, on a déjà 130 ou 150 000 euros qu'on paye déjà depuis une dizaine d'années. Donc, on les a déjà, cela, dans les budgets. La région s'est engagée, vous l'avez dit. Le département s'est engagé aussi. Il nous reste à déterminer le...
C'est engagé, c'est vous qui le dites. Hein. Il n'y a aucune trace de ça.
Non, il n'y a aucun écrit. Mais moi, j'ai confiance en ça. À Sophie Baddel, et on a échangé avec Sophie Baddel, et on se voit assez souvent.
Je crois qu'elle n'est pas là pour répondre, non, je ne sais pas si un des conseillers qui est là veut dire quelque chose, mais...
Elle pourra peut-être le dire demain soir à mes réunions publiques, hein, oui. Si elle veut, enfin, je lui passerai le message. En tous les cas, il y a un engagement, on est en train de se caler sur le niveau de cet engagement, voilà. C'est tout. Si on part sur le même engagement région et département... Ça nous fait la moitié du coût du fonctionnement. Okay. Si on rajoute les 130-150 000 euros qu'on a déjà, il ne nous manque plus que 120, allez, 150 000 euros, si vous voulez. On aura bien un peu de recettes. Sur cette base-là, je redis que sur le budget de la commune, et pour finir, et pour que ça soit clair pour tout le monde, allez, peut-être on aura 150 000 euros de charges supplémentaires sur le budget de la commune. Le budget de la commune, vous l'avez dit tout à l'heure en ouverture, c'est 12,5 millions d'euros. Donc c'est pas un gouffre financier, je suis désolé. Hein. C'est beaucoup d'argent, hein, 150 000 euros de plus, mais c'est pas un gouffre financier. Par contre, c'est de l'attractivité pour le centre-ville. On nous demande de faire des choses pour le centre-ville. On fait, là, pour le centre-ville. Il y a des gens qui vont venir. En termes touristiques, c'est un élément important, parce que c'est le musée du Gévaudan. On va parler du Gévaudan. Et on va présenter des collections qui concernent un peu toute la Lozère. Donc, il y aura de l'interaction entre les territoires, entre... le pont de Montvert, entre Servorette, entre Mende et le parc Alou, forcément, puisqu'on va parler de la bête du Gévaudan. C'est un élément d'attractivité touristique. On est dans un département de moyenne montagne, 1000 mètres d'altitude, où on fait du tourisme à l'extérieur. On a les gens... Il faut que je finisse. On a les gens...
L'heure tourne.
On a les gens qui vont faire du canoë dans les gorges du Tarn, qui vont marcher sur le mont Lozère ou sur l'Aubrac. On a plein d'activités à l'extérieur. Mais quand il fait pas beau, on ne sait pas où les mettre, nos touristes. Donc moi, je dis que le musée du Gévaudan, c'est un élément, un outil. Et que demain, je pense, et c'est le message que je passe depuis quelque temps avec le département, Sophie Pantel l'a très bien entendu, il faudra qu'on ait d'autres outils indoor, qu'on appelle, pour pouvoir accueillir nos touristes quand il fait pas beau, pour pouvoir les mettre dedans. Et oui. Le musée de Gévaudan, il est important aussi pour ça.
Ça fait cher, oui. Ça fait cher l'abri à touristes, quand
monsieur,
même.
Justement, monsieur Pouget, on parle beaucoup de chiffres. Moi, je suis un peu gêné. Par exemple, les piscines municipales sont partout déficitaires. Le musée le sera peut-être, comme il est à Rodez, il sera déficitaire. Mais philosophiquement, vous, de ne pas avoir de musée à Mende et sur le département de la Lozère, ça ne vous gêne pas ?
Non, mais c'est une contre-vérité, ce que vous dites. Il y a des musées en Lozère. Vous dites qu'il n'y a pas de musée en Lozère.
De si, grands musées départementaux, il n'y a pas de musée départemental.
Il y a même deux musées de France en Lozère avec celui-ci, puisqu'il y a le musée du Mont-Lozère qui est musée de France. Donc il y a des musées.
Fermé.
La question n'est pas là. La question, elle est de savoir si ce que nous allons présenter dans ce musée sera un outil d'attractivité. Est-ce que les touristes, comme le dit M. Suau, vont venir visiter les collections actuelles ? Et d'ailleurs, si on veut faire appel à des collections temporaires, c'est bien qu'on se rende compte qu'en lui-même, le musée n'est pas suffisant.
Un musée, c'est toujours un élément d'attractivité liée autour de collections permanentes, donc ce qu'on a sur le Gévaudan, et d'événements temporaires. Ça, c'est la vie des musées d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est partout pareil. Vous voulez parler de fréquentation, parce que c'est en termes de fréquentation qu'on mesure l'attractivité d'un musée. Je pourrais vous dire les chiffres de 2018, on a une baisse de moins 14% de visiteurs dans les musées du Languedoc-Roussillon, de la région Occitanie.
Vous auriez dû venir vendredi à la présentation de la Société des Lettres et des Amis du Musée, parce que vous auriez appris plein de choses sur tout ce qu'il y a de bien et de beau et tout ce qu'on a présenté en Lozère
avec une présentation captieuse.
On va passer à la zone commerciale du Causse d'Auge qui, je n'en doute pas, fera tout autant polémique. Donc c'est bien un projet qui vous divise. Laurent Suau, vous proposez la création d'une zone commerciale et de loisirs sur le Causse d'Auge. Dans le but, je vous cite, de proposer une offre diversifiée et concurrente afin de compléter le parcours commercial mandois. Surface minimale de 300 m² proposée et création de 80 emplois. Pour vous, Philippe Pouget, cela va concurrencer le centre-ville et vous y êtes opposé.
Oui, j'y suis opposé et pour le coup, réellement opposé. La politique nécessite un minimum de cohérence. Et pour reprendre un vieil adage que tout le monde connaît, on ne court pas plusieurs lièvres à la fois. Vous ne pouvez pas, comme le fait M. Suau, prétendre développer le centre-ville, développer le commerce en centre-ville, en parallèlement montant un projet qui va venir tirer une balle dans le pied de ces mêmes commerçants. J'écoutais, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière, le président de la Chambre de commerce de l'Aveyron, qui a été interrogé par vos collègues de la presse radio, Totem. Il rappelait un chiffre que toutes les études rappellent. Un poste créé dans les zones commerciales crée et supprime, plus exactement, deux postes dans le centre-ville. C'est une réalité. Ça, c'est un premier constat. Je ne vois pas comment, en créant une zone commerciale qui va concurrencer le marché de l'habillement, sur le marché même alimentaire, sur le marché des loisirs, etc. Je ne vois pas comment on peut dire en même temps que ça va développer le centre-ville. C'est une hérésie, c'est pour le coup un mensonge. Deuxième observation. Je ne suis pas non plus convaincu que la création de cette zone commerciale du Causse d'Auge vienne, contrairement à ce qui est soutenu, favoriser la concurrence. Là aussi, les règles sont simples. Quand un concurrent s'installe, trois hypothèses se présentent. Et j'aime bien les hypothèses, les choses sont claires. Première hypothèse, une des deux grandes surfaces commence à licencier. Donc l'emploi qu'on crée par ailleurs, on le supprime de l'autre côté. Et souvent, au bout de quelques mois, une des deux enseignes disparaît. Je ne vois pas l'intérêt de créer une enseigne si c'est pour en supprimer une autre immédiatement après. Deuxième réaction, et deuxième en général politique qu'adoptent les hypermarchés, c'est de jouer justement sur les prix. Chacune doit maintenir son activité. Donc ça, au contraire, pour effet d'augmenter les prix. Et enfin, dernière, souvent stratégie qu'adoptent ces hypermarchés, elle est toute simple, elles font des économies. Elles font des économies. Donc qu'est-ce qu'elles feront ? Prenons l'hyper-U demande. Elle dira, où c'est que ça me coûte ? C'est les produits locaux. Elle va dire, moi, je vais faire venir beaucoup plus de produits de ma centrale de référencement et je vais écarter les produits locaux parce que ceci me coûte cher. Et au final, on va arriver à un effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'enrichir, développer une commune, on va encore plus provoquer un cataclysme. C'est pour ça que nous sommes en effet totalement contre cette zone commerciale, d'autant plus, et je terminerai sur ces deux éléments, c'est que elle est dans les cartons depuis 2012. Elle a été étudiée par un bureau que la commune avait mandaté sur des bases totalement erronées et maintenant obsolètes. On partait sur une promesse que le candidat précédent avait faite d'amener Mende à 20 000 habitants. Nous sommes à 13 000. On n'est pas à 20 000. Elle partait également sur une zone chalandise de 35 000 habitants avec une prospective de 45 000 en 2016. Nous sommes loin de ces chiffres-là. Donc même économiquement, c'est un non-sens. Et enfin, je dirais que je terminerai par là. De la part de l'équipe de M. Suau, on a un peu la mémoire courte. Parce qu'on ne peut pas reprocher l'absence de concurrence en ayant donné un avis favorable à la CDAC, c'est la Commission départementale d'aménagement commercial, quand il s'est agi d'agrandir Hyper-U. Si on voulait qu'Hyper-U reste dans ses murs, on ne donnait pas l'autorisation, puisque la mairie d'implantation, elle est membre de la Commission d'aménagement commercial. Les 2600 mètres carrés qui ont été gagnés sur les anciennes surfaces non commerciales, ben, il ne fallait pas voter pour. Je ne vois pas pourquoi on va aujourd'hui plaider la concurrence, et puis en ayant voulu clairement favoriser cette concurrence, cette extension de cet hypermarché. C'est la raison pour laquelle ça me semble en effet totalement incohérent. Nous, notre politique, elle est claire, c'est que nous faisons des choix. Nous faisons des choix dans une cohérence et que pour développer le centre-ville, c'est un des piliers de notre programme, il y en a d'autres, mais que pour développer le centre-ville, nous ne pouvons pas parallèlement développer des projets qui viendront ruiner les avantages du premier.
Monsieur Suau.
Alors, il y a plusieurs choses à répondre à Monsieur Pouget. La première, c'est qu'en Lozère, peut-être, on est champion du monde du nombrilisme. Ça, il y a 8 jours. C'est sur le dimanche, là. TV Magazine, donc ça sort avec le Midi Libre du dimanche. L'ouverture de votre hypermarché à Véronée, à Rodez. Combien il y en a de zones commerciales à Rodez, puisque vous parliez de l'Aveyron, combien il y en a de zones commerciales à Rodez? Nous, ici en Lozère, on a une zone commerciale, pas pour Mende, pour le département. 78 000 habitants, alors je reconnais.
L'Aveyron, il y en a combien, monsieur le maire? Combien il y a d'habitants à Rodez? La non, zone, mais... c'est 75 000 habitants.
Ils ont 7 ou 8 zones commerciales. Alors moi, j'entends tous les discours nationaux, je les entends. Quand on nous dit qu'il faut faire des moratoires sur les zones commerciales, oui, dans des villes comme à Cahors, comme à Rodez, comme à Perpignan, quand il y a 3, 4, 5 zones commerciales, je comprends que les gens disent et que l'interrogation se fasse pour savoir si on doit en créer de nouvelles. Ça, c'est une vraie question. Par contre, ici en Lozère, on en a une. Et on n'aurait pas le droit, nous, en tant que consommateurs, moi, qui suis un consommateur comme vous, on n'aurait pas le droit d'avoir une concurrence alimentaire. Je suis désolé. Je trouve que... Et la petite épicerie d'Elmas, que j'aime bien et que je défends, que je parle chaque fois que je...
Nous avons un point commun.
Le repreneur d'Intermarché, comme son prédécesseur, sont de très bons commerçants. Mais je suis désolé. Ils n'ont pas la capacité de faire la concurrence à Hyper-U. 6500 mètres carrés, ils n'ont pas la capacité. Hyper-U a une puissance d'achat qui est bien supérieure à tous les autres. Et c'est pareil à Saint-Chély, et c'est pareil à Florac, et c'est pareil à Langogne, et c'est pareil à Marvejols. On a une zone commerciale pour tout le département. Alors moi, je dis, pour les consommateurs, on a le droit d'en avoir une deuxième. Et je dis qu'on a le droit aussi d'avoir ici, à Lozère, un parcours commercial complet. Parce qu'on a des trous dans notre raquette. C'est pas moi qui le dis, c'est la CCI. Donc on ne pourra pas me taxer d'être partisan. Donc je ne vois pas pourquoi on oppose systématiquement aussi cette deuxième zone commerciale au centre-ville. Cette deuxième zone commerciale, elle doit surtout être opposée en termes alimentaires à la première, pas à la seconde. Et je reste raisonnable quand je dis qu'effectivement, il y aura peut-être quelques destructions d'emplois, notamment à Hyper-U. Et je reste raisonnable quand je parle de 80 créations d'emplois sur l'ensemble de la zone, avec des moyennes surfaces à côté. La zone commerciale aussi, je le dis, et c'est important pour Mende, il y a une zone ludique qui est prévue, avec peut-être un bowling, peut-être des éléments d'attractivité qui nous manquent sur le territoire et qui sont demandés, notamment par les jeunes. Donc c'est un ensemble, cette zone commerciale. Et je dis aussi que toutes les études valent, mais il n'y a rien qui remplace le chef d'entreprise pour moi. Quand vous avez des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur et qui vous disent « je sais où c'est placé, je sais qui j'ai en face et je sais le chiffre à faire que je peux faire parce que je sais ma zone de chalandise qui est bien de 50 000 habitants, la zone de chalandise. autour de Mende, 50 000 habitants, et qui vous disent « moi, je signe pour venir à Mende », je pense que c'est une utilité que de faire cette zone commerciale. Par ailleurs, et d'ailleurs, je m'aperçois que les chiffres, plus ça va et plus ils baissent. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que pour un poste créé en hypermarché, on en détruisait 4 au centre-ville.
C'est pas moi.
On est un peu plus raisonnable puisqu'on n'est plus qu'à 2.
Okay. Ah, mais moi, je dis les vrais chiffres.
Je sais pas,
le 4, c'est pas de moi, non.
Non, mais je n'ai pas dit que... Mais le 2,
le
2
il
est de
vous. Merci.
Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas vieux, puisque tout le monde était là à peu près en 2005, quand Hyper-U s'est créé. Hyper-U, il a doublé son nombre de personnel. Pas tout à fait doublé, mais pas loin. Il est autour de 220, si j'ai bonne mémoire aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait détruit, entre 2005 et 2008, 2010, 2012, 200 emplois au centre-ville, selon les chiffres de M. Pouget, ou selon les chiffres d'autres, 400 emplois au centre-ville? Est-ce qu'il y aurait eu tant de fermetures que ça? Il ne faut pas exagérer sur les chiffres. Le centre-ville, les politiques, particulièrement, mais tout le monde, les politiques ont un devoir de responsabilité par rapport aux messages qui sont envoyés. Il y a une responsabilité de chacun d'entre nous à vouloir défendre le centre-ville, à faire l'effort d'aller consommer aussi au centre-ville. C'est ça qui sauvera le centre-ville. On a de très bons commerçants au centre-ville. On a des gens qui sont là depuis longtemps, qui aiment le centre-ville. On a des gens qui, commerçants au centre-ville, réinvestissent dans le centre-ville. Il y a des commerces qui se sont créés. Donc c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut défendre. Moi, je suis un optimiste et je veux, en même temps, investir pour le centre-ville parce que j'ai un programme complet. D'ailleurs, j'ai noté ce matin dans le journal que le programme que vous développez, c'est le programme qu'on a fait avec Action Cœur de Ville.
Donc vous j'allais vous dire le contraire. J'avais l'impression que vous aviez copié
le mien. Allez, on va s'interrompre,
mien.
On ne va pas venir sur le centre-ville parce qu'on a quelques questions. Alors, très très rapidement, on va vous demander vraiment là, des réponses très rapides parce qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti et ça priverait la salle de quelques questions. Sur le cadre de vie, qui est notre troisième thématique, sur la culture et les animations, est-ce que vous avez, en deux ou trois mots, quelques propositions novatrices à nous faire? Alors, on va démarrer par vous, Monsieur Pouget.
Oui, le cadre de vie rejoint justement la politique du centre-ville. Nous n'allons pas promettre un nouvel espace événement, nous n'allons pas promettre des investissements démesurés qui ne serviront pas à grand-chose. Notre objectif, c'est d'améliorer le quotidien des Mendois, et aussi, ça passe par le centre-ville. Donc, le cadre de vie, c'est quoi? C'est faire en sorte que le centre-ville retrouve des habitants, retrouve les Mendois, qui n'y viennent plus beaucoup, retrouve des passages, des touristes de passage, retrouve tout simplement des curieux. Et oui, et c'est en travaillant sur le cadre de vie que nous améliorons les choses. Le cadre de vie, c'est quoi? C'est rendre le centre-ville attractif, convivial, humain. Ça passe par, et là, M. Suau, après avoir abattu quelques platanes, maintenant va en replanter, mais nous, on l'avait dit avant lui, ça passe par une revégétalisation du centre-ville, ça passe par tout simplement de l'animation culturelle. Notre objectif, c'est ramener de la vie en centre-ville. On a eu l'idée de créer pour un festival de cinéma, en tout cas plein air. Ça passe aussi par le redéploiement du marché en centre-ville. Il est actuellement, parce
qu'il
faut
remplir
cette... Non, il y a un centre-ville. Quand je dis un centre-ville, la ville cœur. On le met l'hiver au rez-de-chaussée de l'espace, parce qu'il faut qu'il sorte quelque chose. Non, nous voulons justement créer du mouvement, du passage, ramener les gens en centre-ville. Ça fait partie de cette animation. C'est également faire en sorte que le TUM puisse ramener les passagers en centre-ville. Donc, il faut créer ce cadre de vie. Le cadre de vie, ça concerne aussi les villages alentours. Le cadre de vie, c'est améliorer le passage du TUM. Le cadre de vie, c'est rendre le TUM gratuit. Le cadre de vie, c'est...
Le rendre électrique, si on parle de ville écologique.
Alors, vous abordez peut-être un sujet que vous voulez aborder plus tard, c'est celui...
Oui, mais on est un peu pressé par le temps, alors c'est vrai que je m'emballe.
Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est les véhicules de la mairie, oui, seront remplacés par des véhicules électriques. Le cadre de vie, c'est l'amélioration, tout simplement, de la collecte des déchets. Je regardais encore, il n'y a pas si longtemps que ça, devant la cathédrale, pour attirer les touristes, il n'y a pas mieux comme regard, on avait un monceau de tas de cartons qui était comme ça. C'est pas normal qu'à 3h l'après-midi, les cartons soient empilés sur 1 mètre de hauteur devant la cathédrale. Donc le cadre de vie, c'est tout ça. Le cadre de vie, c'est s'intéresser à la vie de chacun, faire en sorte que chacun voit rapidement, immédiatement, son confort, son cadre de vie, ses conditions de vie s'améliorer. Donc ça touche tous les secteurs, ça touche le logement, ça touche effectivement le ramassage, ça touche toute une série de domaines qui vont permettre de développer le centre-ville et puis surtout faire en sorte que les habitants des hameaux aient le plaisir de revenir en centre-ville. Ça nous obligera à travailler aussi sur le parking et sur la circulation centre-ville.
Monsieur Suau, rapidement.
C'est toute la différence qu'on a dans la politique. Vous, vous voyez que par le centre-ville. Mende, c'est pas que le centre-ville. Le centre-ville est très important. Moi, j'y suis tous les jours, au centre-ville. Je m'y promène tous les jours. J'essaie d'y consommer au maximum. Mais il faut amener de la vie aussi à Fontanier. Il faut amener de la vie aussi dans les quartiers. Il faut amener de la vie aussi dans les villages. Vous voulez tout ramener au centre-ville.
Comment on amène cette vie?
Vous voulez arrêter l'urbanisation. Donc, on a fait un PLU en 2018 qui prévoit l'organisation de la ville sur les 10, 15, 20 prochaines années. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Ça a été voté à l'unanimité au conseil municipal. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit, y compris l'opposition actuelle, est en train de nous dire oh, il faut arrêter, il faut faire au centre-ville. Non. C'est pas parce que tout le monde ne se saisit du développement durable. D'ailleurs, je note que vous dites que je fais rien, vous êtes gonflé quand même, de dire que j'ai rien fait pour l'environnement. Mais bon, je vous laisse libre de vos propos. Il faut continuer à faire pour le centre-ville. Mais il ne faut pas faire que pour le centre-ville.
Je
pense
d'accord.
que les gens qui sont dans les quartiers, ils aiment bien qu'on aille les voir dans les quartiers. Et pas que pour les élections. Ils aiment bien qu'on fasse la démocratie de proximité, qu'on aille sur le terrain quand ils en ont besoin, qu'on fasse ces visites de quartier. C'est ça qui est important. Il faut être au contact permanent. Et Mende, je le redis, a une responsabilité, parce que c'est une ville-préfecture, mais parce qu'elle est sur un bassin de vie, et donc elle a une responsabilité en termes de culture. Moi, je souligne juste, on me dit qu'on fait de la culture élitiste. 10 000 entrées sur la dernière saison culturelle. 10 000 entrées, mesdames et messieurs, entre 2018 et 2019. 10 000 entrées à la saison culturelle. Et on nous dit qu'on fait de la culture élitiste, mais il devait y avoir 300 personnes. La troupe qui vient samedi et dimanche. Allez-y, parce que c'est du haut niveau.
Du cirque contemporain, on va dire, alors. Oui.
Caroline, on va passer à la toute dernière partie. Il nous reste 8 minutes et ce sont les questions politiques que vous allez poser avec Ludovic. Allez-y, je vous en prie.
Alors, la première question, Monsieur Pouget, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Nous aurions aimé savoir, on est à 5 jours maintenant des élections, est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de dire aux Mendois qui sont là et qui nous liront ou nous écouteront ce soir, qui seront vos adjoints et à quel poste, Monsieur Suau, pareil?
Oui, je fais la même réponse. Et vous me permettrez de réserver la primeur des propositions que je ferai, parce que ce n'est pas moi qui vais décider tout seul, aux concernés. Vous avez quand même des indications. Il suffit de regarder quand même l'ordre dans la liste. Et vous aurez des idées, une idée de ceux qui seront ou qui ne seront pas joints. Mais je l'ai déjà dit, ça sera en fonction des compétences de chacun, en fonction de la disponibilité de chacun, que les choix se porteront. Maintenant, je vous répondrai. Immédiatement, on me ferait le reproche, mettre la charrue avant les bœufs, regardez quel prétentieux est-il, il choisit ses adjoints alors qu'il n'est même pas élu. Permettez-moi au moins de respecter les électeurs. Nous présentons une liste. Nous aurons, une fois que l'élection sera passée, si nous sommes élus, une réunion forcément de majorité. C'est à ce moment-là que nous présenterons les adjoints. Vous connaissez la première adjointe, ça a déjà été dit. Et puis ensuite, les Mendois le sauront.
Est-ce que cette première adjointe ira à la communauté de communes, puisque ça ne sera pas vous, donc on l'a bien compris.
À la présidence?
Oui.
Je ne crois pas, elle est là, mais je ne crois pas qu'Emmanuel soit aussi dans l'esprit de cumuler les fonctions. Donc je ne crois pas me tromper en disant qu'elle n'ira pas à la présidence.
Il faudra quelqu'un de votre liste, alors.
Il faudra quelqu'un de ma liste.
Si vous souhaitez conserver la
présidence. Alors, pour le coup, j'ai des idées, je ne vous le cache pas, j'ai des idées, j'en ai parlé avec les intéressés, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous dévoiler.
Ludovic. Monsieur, vous avez une question pour Laurent sur eux?
Non, monsieur Suau, même chose.
Pour répondre sur la même thématique, oui.
Oui, oui, ça serait
alors
bien.
Nous, on a discuté avec l'équipe. J'ai pris une équipe en 2016 pour laquelle j'ai souhaité apporter un certain nombre d'évolutions, de renouvellements, parce que je pense que c'était nécessaire. Donc on est autour de un peu plus de 40% de renouvellement de la liste, avec de la jeunesse qui arrive. Et donc j'ai souhaité après structurer ma liste en mettant aussi des nouveaux en haut, bien évidemment. On montre aussi cette volonté d'expérience, de stabilité par rapport à l'équipe municipale, en ayant bien sûr Régine Bourgade comme première adjointe, mais en ayant aussi dans les adjoints Françoise Amargé-Brajon, Elisabeth Minet-Trenel, Jean-François Béringuel pour la culture, et puis des nouveaux. Aujourd'hui, dans le conseil municipal, on a 9 adjoints, demain on n'en aura que 7. Je resserre les équipes, et donc des nouveaux, et il y aura des nouveaux plus jeunes, et qui permettront effectivement ce renouvellement. Après, je structurerai la liste aussi avec 8 conseillers délégués, donc avec une délégation, donc avec une indemnité, c'est la loi, et puis 8 autres conseillers qui seront, eux, des conseillers simples, sans indemnité, et en fonction du résultat de dimanche, on sera 25, 26, 27, voilà, au minimum 25. Voilà.
Caroline.
Merci pour ces précisions. Un petit mot sur les indemnités, Monsieur Pouget, puisque vous n'en avez pas parlé.
Non, notre engagement est très clair. Beaucoup de conseillers municipaux, en effet, même tous les conseillers municipaux, percevaient une indemnité dans le cadre du mandat sortant de M. Sureau. Notre position, elle est claire. Les adjoints, le maire, auront leur indemnité légale. C'est normal. Ensuite, au niveau des conseils municipaux, les conseils municipaux, c'est aussi de leur part un investissement, une œuvre qu'ils apportent à la collectivité, ne percevront pas d'indemnité. Quand on parlait d'économie, c'est là qu'elle commence. Parce que quand je vois, et je ne veux pas citer le conseil municipal concerné, mais quand je vois à la rue des Genévriers cette fameuse vigne qui devait être plantée, pour laquelle, sauf de ma part, une délégation a été confiée, quand je vois l'état dans lequel est la vigne, je trouve que cette délégation n'était pas justifiée, par exemple. Donc, je veux des vraies délégations. Oui, ça pourrait se concevoir. Monsieur Sio nous dit qu'il y a des vraies délégations. Oui, nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Je demanderai aux adjoints un investissement quotidien, chaque jour, et ce sont parce qu'ils seront payés, les adjoints, qui s'occuperont effectivement de tous les sujets.
Une dernière question sur vos étiquettes politiques, parce que des listes sans étiquette, elles fleurissent là, un peu partout. Mais il est intéressant de savoir où se place la tête de liste. Donc je vous pose la question à tous les deux.
Oh, ben je vais de nouveau reprendre la parole si vous souhaitez. C'est vrai qu'on aime bien en France coller des étiquettes dans le dos des personnes et les hommes politiques et les femmes politiques n'échappent pas à la règle. Parfois, elles y sont sans coller colle, effectivement. Mais j'aime pas trop, moi, qu'on veuille m'en coller alors que j'en ai pas. Je me suis déjà longuement expliqué là-dessus. Nous sommes une liste sans étiquette, pour le coup, sans étiquette dans le sens où nous ne sommes soutenus par aucun parti. Nous avons demandé le soutien d'aucun parti. Certains nous ont approchés, c'est vrai, nous les avons gentiment éconduits. On est dans une démarche totalement indépendante parce que l'élection mandoise, ce n'est pas l'élection d'un parti politique, c'est l'élection des mandoises et des mandois. Je ne crois pas qu'on soit de droite quand on fait une bonne politique ou qu'on soit de gauche quand on fait une bonne politique. On fait une bonne politique tout simplement. Donc les membres de mon équipe, individuellement, peuvent avoir appartenu ou peuvent appartenir à des organisations politiques. Ce n'est pas la question pour moi. La question pour moi, elle était simple. Nous avons construit, bâti un projet ensemble. Ce projet, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. La gestion sérieuse des finances, on va me cataloguer à ce moment-là de droite. Quand je parle de sécuriser plus encore que ça ne l'est les sorties d'école par la police municipale, on va me dire ah, « ça y est, vous êtes effectivement quelqu'un qui est extrêmement réactionnaire ». Non, c'est des bonnes choses. Quand on va me parler de développement du logement, etc., on va dire « vous faites du gauche, vous êtes de gauche, vous êtes… » Donc c'est pas la question. Pour moi, on est totalement, pour le coup, indépendant, et c'est une liste avant tout citoyenne. Alors, je sais qu'on va tout à l'heure me rebondir sur la question, puisqu'on m'a dit « ouais, mais en fait, vous avancez le masqué, parce que dans votre liste, en fait, il y a beaucoup de personnes d'En Marche ». Alors, j'ai interrogé les personnes acquises de droit, parce que… Il y a 15 jours, quand j'ai posé la question à M. Sio, il m'a indiqué qu'il était le seul, a-t-il juré, le seul membre du mouvement En Marche. Mais j'ai regardé, ben non. Madame Mayol est bien En Marche, on me l'a confirmé.
Vous avez accès aux listes ?
J'ai pas accès aux listes, j'ai interrogé... Ah. Non, j'ai pas accès aux listes, non, par hypothèse. Mais j'ai interrogé qui pouvait me donner la réponse. Et nous l'avons interrogé. Madame Mayol, elle avait même, au départ, eu une ambition d'être investie par le mouvement En Marche lors des élections législatives. Monsieur Lacasse, j'ai appris, il est aussi En Marche. Madame Trenel également En Marche. Mais je fais pas le procès à Monsieur Sio, hein. Il est simplement, c'était... J'ai trouvé ça particulièrement fort de café de me coller l'étiquette En Marche, alors que du côté de M. Souvé dans sa liste, il y en avait effectivement plus que moi. Donc voilà, la position pour nous, elle est claire. Ce n'est pas une histoire d'être de gauche ou de droite, c'est d'être un candidat et une liste pour les mandoises et les mandois. S'ils trouvent que c'est trop à gauche par moment, ben, ça sera trop à gauche. S'ils trouvent que c'est à droite, la question, elle n'est pas là. La question, c'est le projet. Et les mandois voteront pour un projet, non pas pour une étiquette.
Laurentio.
Alors, nous, on a une équipe depuis 2008, donc qui avait été montée par Alain Bertrand, qui va de la gauche jusqu'au centre droit. Voilà. Donc avec du MoDem, du PS, des Verts sans forcément être encartés, et puis des gens plus à gauche, bon, c'est connu. Donc on a respecté cette même logique en 2014, je suis dans la même logique. Et je ne veux pas afficher une étiquette, un logo sur une affiche ou sur un programme parce que ça ne correspond pas à l'ensemble de mes coulissiers. Ça ne correspond pas à l'ensemble, malheureusement aujourd'hui, de mes 34 coulissiers, puisque Alain Bertrand nous a quittés. Et donc, il faisait partie de la liste. J'ai mes propres convictions. Je pense qu'on doit toujours, notamment dans une ville comme Mende, mettre la femme, l'homme, au centre de nos préoccupations, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et toute l'année.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse nos deux candidats. Merci pour ce débat. On est resté 2 heures ensemble. Je voudrais remercier 48FM et Ludovic Thérol. Je rappelle que le débat sera retransmis ce soir à 19h. Demain, double page dans Midi Libre. Je rappelle également que notre soirée électorale est à suivre sur midilibre.fr le 15 mars. Je voudrais remercier évidemment Caroline Gaillard, Stéphanie Boulouard, son adjointe, et puis Thierry qui est au bout, Diane, Loïc, Inès qui est ici, Emma et puis Bruno Vedel. Merci à beaucoup et à tous et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.